Merci d'être là avec nous en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Threads, sur X, sur TikTok également. Mais là, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est sur les planches. On va avoir du théâtre, du vrai peut-être. J'ai Claudine Dan avec nous et Christine Matos. Vous êtes là toutes les deux. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est Claudine ?
C'est moi.
Bonjour Claudine et Christine.
Donc c'est moi.
Voilà. Vous venez nous présenter une pièce qui s'appelle.
Oui, alors il s'agit de Camille Claudel, virgule, Nos enfants de marbre.
Virgule. Nos enfants de marbre. C'est un texte de qui ?
Alors c'est un texte, c'est un roman épistolaire de Laurence Créton.
Oui.
Et donc j'en ai fait l'adaptation pour le théâtre.
D'accord, donc vous êtes metteur en scène.
Oui.
Très bien. On va le voir au Figuier Pourpre samedi prochain, le 1er mars. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce ? Parce que Camille Claudel, on en entend parler.
Oui.
On est toujours un peu dans le même sens. Je pense que vous avez peut-être pris un chemin de traverse.
Oui, bien sûr. Camille Claudel, surtout depuis quelques années, on en parle beaucoup plus. Mmh. On a même créé un musée Camille Claudel, et bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pièces de théâtre aussi qui ont été jouées ces derniers temps. Alors mon choix a été de, puisqu'il s'agissait d'un roman épistolaire à la base, c'est de choisir la correspondance, l'échange entre elle et sa meilleure amie, une Anglaise, Jessie, qu'elle a connue dans l'atelier de Rodin à Paris. Alors il ne s'agit pas que de Jessie. Il y a aussi quelques lettres qu'elle adresse à son frère. Et on parle évidemment un petit peu de Rodin. Mais c'est surtout le rapport entre ces deux femmes que j'ai choisi.
D'accord. Deux femmes dans une société d'hommes. C'est un peu l'énorme problème de Camille Claudel.
C'est ça.
C'est un peu ça. Hein.
Oui.
Comment on va définir cette pièce ? Elle seule, ce sont des lectures de ses lettres ?
Oui, non, c'est un seul en scène, en fait. On partage l'espace entre son atelier et une cage qui symbolise son enfermement donc à Montfavet, puisqu'elle a été enfermée pendant 30 ans.
C'est ce que j'allais dire, la pièce se passe à Montfavet ? Enfin, elle est à Montfavet au moment de... Dans la mise en scène.
Alors, dans la mise en scène, elle est à Montfavet. Et alors, l'idée, c'est que... Elle se souvient des moments qu'elle a passés dans son atelier, ces moments heureux. Aussi qu'elle a passé en dehors de son atelier, mais c'est surtout dans son atelier où elle a énormément travaillé, et des moments heureux, mais aussi des moments très durs qui l'ont blessée, qui l'ont exaltée, qui l'ont poussée. Beaucoup de gens ont parlé de sa folie, mais vu ce qu'elle a vécu, comment ne pas devenir un peu folle.
Et puis à l'époque, une femme un peu libre, c'est une folle, non ?
Oui.
Ou une hystérique peut-être, de manière...
Oui, évidemment. Ouais.
Donc elle se retrouvait comme ça, un peu isolée, entourée d'hommes fameux, Rodin, Paul, Claudel.
Alors ça a été une lutte incessante, pratiquement dès qu'elle a rencontré Rodin. Elle avait 20 ans, il en avait 43. Déjà, c'était sa muse, c'était son modèle, c'est devenu très vite son amante, et donc ça a été une relation très très mouvementée. Et d'ailleurs, quand même, dans la mise en scène, il y a des moments qui rapportent justement ces échanges
houleux. Je m'adresse à lui
amoureux.
En criant, voilà, amoureux, ouais. Mais aussi en colère contre lui. Quand elle est enfermée, elle se souvient, elle est en révolte contre lui.
D'accord, c'est vous Claudine qui jouez Camille.
Oui, c'est moi.
Vous entrez dans la peau du personnage, vous êtes inspirée, vous avez...
Très 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 inspirée, ouais. J'y pense sans arrêt, le soir en m'endormant, le matin en me réveillant, non mais c'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce qui vous a... Moi, je suis partagée
entre l'admiration pour cette femme, pour son art, et une révolte. Mais plus ça va, plus je lis des livres sur elle, et plus je suis révoltée parce qu'on lui a fait, parce que déjà par le fait qu'elle ait été un peu écrasée par la, on va dire, la gente masculine,
le patriarcat,
par rapport à son art, à son talent. mais aussi le fait qu'elle était enfermée contre son gré, qu'elle ait crié son désespoir de pouvoir sortir de là pendant 30 ans, et qu'elle y soit restée jusqu'à sa mort.
Arrêtez d'être énervé, vous allez finir à Montfavet. On n'est pas tout à fait au 18e, là.
Si je suis dans la cellule de Camille Claudel, pourquoi pas.
Ben, si on se met à sa place, c'est un peu ça. Ouais, c'est on ça. Est dans une cage mentale, et si on s'énerve un peu, on passe pour une folle tout de suite, et on peut vous enfermer.
Alors, pour revenir sur le rôle de la comédienne, elle ne joue pas que le rôle de Camille. Parce que de temps en temps, elle devient son amie Jessie. De temps en temps, elle se met à la place de Rodin même, de certains hommes, certains bourgeois qui viennent visiter son atelier, etc. Donc certes, c'est un seul en scène, mais par moments, elle joue d'autres personnages.
D'accord. Alors
ça, c'est de ce côté-là. Et par rapport donc à Camille Claudel, le point le plus important, ce qui est le plus douloureux pour elle, c'est être à la fois une femme, voire devenir une mère et être artiste. Et c'est la difficulté, et ça, c'est complètement d'actualité, je veux dire. Ça existait à l'époque, c'était encore plus flagrant, mais c'est toujours d'actualité. Et elle se bat, elle s'identifie, par exemple, à Louise Michel, à un moment, elle s'identifie à des femmes qui ont lutté contre elle, comme elle, pour essayer d'exister, tout simplement.
L'impression de se battre contre des moulins à vent, j'imagine.
Voilà. Exister en tant que femme et exister en tant qu'artiste.
Et oui.
Il y avait vraiment les deux.
Il y a pas mal de femmes qui prenaient des noms d'hommes aussi, à l'époque, pour exister
dans la littérature. C'est vrai. Dans le début du texte, c'est évoqué, ça, ce prénom Camille, qui est ambigu.
Ouais. Vous avez lu le livre de André Castelli sur Camille Claudel, vous l'avez rencontré, il va sûrement venir voir la pièce, puisque c'est un grand spécialiste.
Oui. Du coup. En fait, André Castelli, je le connais depuis très longtemps.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec la pièce, mais par rapport à un voyage...
C'est le personnage, Claudel.
Oui, à Cuba. Et déjà, à l'époque, il m'avait parlé, parce qu'il me parlait, comme on était amis, il m'avait parlé du fait qu'il avait travaillé à Montfavet, et que donc, il était très intéressé par... il avait commencé à faire des recherches pour voir ce que était devenu Camille, pourquoi sa fin de vie avait été si violente, en fait, si abandonnée de tous. Et des années après, donc maintenant, je sais qu'il fait une tournée où il présente son livre, il fait des conférences.
Oui, on a des conférences, on l'a super reçu intéressant. Ici, c'est très intéressant.
Et d'ailleurs, Claudine était présente aussi.
Je suis allée le voir à Château-Renard, donc c'est vrai que c'est là qu'il a dit qu'on lui avait suggéré qu'il y avait des documents, des archives intéressantes.
Et le livre,
et qu'il allait partir au feu, quoi. Donc il s'y est intéressé, il a retiré pas mal de documents de ce tas d'archives. il a pu s'en inspirer pour écrire son livre.
Elle a passé combien de temps? 30 ans, hein, Montfavet, dans les
30 années. Ans. 30 ans. Ouais, bah, ouais.
30 ans de solitude, quasiment.
Elle est rentrée à 48 ans et elle est décédée, elle en avait 78.
Ah oui, d'accord.
Et c'est étonnant, je me faisais encore la remarque ce matin, qu'elle ait tenu jusqu'à 78 ans, parce qu'il faut se rappeler que quand elle était enfermée, c'était la guerre.
D'accord.
Et oui, et oui. Donc, c'était pas les personnes qui étaient le mieux nourries et le mieux logées à l'époque, au contraire.
Elle a d'abord été internée dans un asile en région parisienne.
Oui.
Et lorsque la guerre a éclaté, la Première Guerre mondiale, une grosse partie du contingent a été transférée en zone libre dans le sud de la France.
D'accord. Donc, elle a atterri à Montfavet.
D'accord. C'est quelqu'un qui est... C'est une révoltée, de toute façon.
Oui.
De base.
Oui.
Et dans ce texte que vous avez adapté, qu'est-ce qui ressort de cette Camille? Qu'est-ce qu'on découvre? Parce que ces lettres, j'imagine qu'elle se confie à son amie anglaise.
Oui, bien sûr. Mais ça confirme déjà ce qu'on savait, c'est sa relation tumultueuse avec Rodin.
Rodin qui l'a ignoré aussi pendant pas mal d'années, j'imagine.
Oui, disons que beaucoup de gens pensent que c'est elle qui, enfin que c'est lui qui l'a abandonnée. Non, il a bien profité d'elle en tant que sculpteur, puisque par exemple, il lui faisait sculpter les pieds, les mains, des sculptures qui sont les parties un peu délicates. Mais il profitait pas. Quand il était dans son atelier, qui dirigeait son atelier, il y avait aussi toutes les jeunes femmes, apparemment. Il y avait des jeunes gens, mais surtout des jeunes filles qui venaient apprendre. Et donc, il avait pas mal d'aventures. Hein.
Ça devait avoir certains avantages de s'appeler Rodin à cette époque-là.
Voilà. Et donc, il était très, très entouré, très sollicité. Et ça, ça faisait souffrir évidemment Camille, puisqu'ils étaient amants tous les deux. Et après, petit à petit, elle s'est rendue compte, elle en a eu marre qu'on la compare à Rodin. Toujours, ça soit par rapport à Rodin. Demander à Rodin ce qu'on pensait de son travail. Et si Rodin pensait, si Rodin disait, elle en a eu marre. Mmh. Et donc, elle a décidé de louer un petit atelier où elle s'est mise à travailler toute seule. Ça, c'était la première étape, disons. Ils continuent à se voir en tant qu'amants, en tant que pour réaliser des sculptures ensemble. Et la deuxième étape après, c'est carrément, elle s'est écartée parce qu'elle a compris que de toute façon, Rodin, ne ferait rien pour l'aider à faire connaître ses sculptures. Deux, que Rodin ne quitterait pas sa femme parce que Rodin était marié avec une femme avec qui il avait un fils d'ailleurs, qu'il ne la quitterait jamais. Bon, quand elle a compris que c'était fini, elle s'est séparée. C'est elle qui l'a quitté.
Oui.
Et après, bon.
Ah oui, donc en plus, l'orgueil.
Voilà. Et après, il y a eu des années très douloureuses pour elle parce qu'on disait qu'elle sculptait. Puis dès qu'elle avait fini une sculpture, elle cassait tout, elle brisait tout. Bon, elle était pas bien.
On la comprend quand même, un petit peu, franchement.
Tout à fait.
Et puis comme elle était, elle avait pas d'argent. Bon, son frère lui donnait un petit peu d'argent de temps en temps. Elle a sombré. Elle est devenue elle avait pas de quoi manger. Elle vivait avec des chats d'ailleurs dans son atelier. C'était devenu un taudis. Donc petit à petit l'image qui s'est créée autour d'elle. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette femme?
Ça confirme l'image, le cliché qu'on voulait lui mettre sur le dos.
Mais alors en parlant de folie, moi j'ai beaucoup lu de lettres justement qu'elle a écrites quand elle était enfermée. Et quand on voit le français, enfin la manière dont elle rédige, l'enchaînement des idées et tout ce qu'elle dit, on se dit mais c'est pas possible, c'était pas une folle. Quand elle écrit au médecin-chef de Montfavet en disant mais voilà ma situation, je comprends pas, voilà. Mais en fait, elle a rien pu faire. Tout ce qu'elle a pu écrire n'a pas été, il n'y a pas eu de retour. Oui. Et pourquoi? Parce que sa mère. Je remonte un petit peu en arrière. Allez-y. Elle a été enfermée.
Sa mère aussi, ouais.
Parce que sa mère et son frère ont signé.
Ah oui, c'est eux qui l'ont fait enfermer, bien sûr. Oui, ça,
c'est
oui. On connaît un peu l'histoire de.
Voilà.
Si vous voulez, on pouvait enfermer facilement quelqu'un.
Le père s'est toujours opposé à ça parce que la mère déjà disait qu'elle voulait qu'elle soit enfermée. Le père s'est opposé à ça. Du jour où le père est mort, la mère a tout de suite saisi un médecin qui a fait une lettre et ils sont venus la chercher et l'enfermer à Villevra.
Mon grand désir, mon idéal est de mettre dans la pâte et dans les formes que je tire de la pâte une idée. Il ne faut pas être trop fou pour dire ce genre de choses.
Exactement.
Jean-Paul Castelli, dans sa conférence, a dit qu'elle avait, des dons depuis qu'elle était toute petite, c'est-à-dire écrire et sculpter.
C'est une famille d'artistes quand même.
Oui. Voilà.
Parce que Paul Claudel n'est pas allé là-bas, mais il a quand même nous a laissé quelques œuvres d'importance quand même.
Bon, Paul Claudel, il ne faut pas trop me prononcer son nom. C'est un grand romancier, un grand écrivain. Ça, on ne le nie pas. Mais l'attitude qu'il a eue avec sa sœur, c'est horrible, je trouve. Parce que c'était vraiment une relation très très forte depuis la toute tendre enfance. C'est mon petit Paul. C'était son... une relation très très forte. Et bon, il est allé la voir quelques fois. Il a même envoyé de l'argent de temps en temps pour que, justement, à Montfavet, on la traite un peu mieux. Mais lors de une des dernières visites, il a dit qu'il regrettait son attitude et tout. Mais ça n'a pas changé.
Oui.
Il a continué à ne pas aller la
c'est
voir.
C'est ses regrets qui coûtent pas cher.
Mais il ne faut pas oublier que monsieur a été diplomate, donc ça faisait tâche d'avoir une sœur comme ça. Fallait pas que ça fasse de bruit.
C'est l'époque, que voulez-vous.
Oui.
On a d'autres tares aujourd'hui dans la nôtre d'époque.
Oui,
ça change selon les époques, justement. Ouais. Ce sera au Figuier Pourpre, la maison de la poésie, en fait, le 1er mars prochain, le samedi prochain.
À
20h30. On peut réserver, on appelle, on fait comment?
Mais il faut faire très vite parce que déjà, il y a les trois quarts des places qui sont parties.
D'accord, oui. Il vous reste un quart des places, donc renseignez-vous auprès du Figuier Pourpre pour aller voir Camille Claudel. Les enfants de marbre.
Nos enfants de marbre.
C'est au Figuier Pourpre. Merci Christine, merci Claudine.
Merci à vous.
Bonne
merci
représentation à vous. Merci et beaucoup. Revenez quand vous voulez.
Ah ben oui.